Qu'est-ce qu'elle est longue cette fin de saison? Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de d'Autour du Feu, consacré à la saison de Koh-Lanta, les armes secrètes. C'était l'orientation. Et du coup, je vais vous présenter mes intervenants. Aujourd'hui, c'est Zangouze que vous entendrez un petit peu plus tard et Gino. Salut Gino.
Ah oui, cinquième fois. Bah, c'est vrai que la saison est tellement bonne qu'on croule sous les volontaires à chaque fois. Mais bon, moi, ça me fait toujours plaisir de revenir. Donc, je vais pas dire qu'on fait avec, mais. On fait avec.
Épreuve d'orientation, donc qui mettait aux prises Jonathan, Arnaud, Laure, Maxine et Lucie, qui devaient trouver donc d'abord une souche torsadée, un corail bleuté et un bois de serre. Où on prenait un petit peu la température sur ADF et sur Twitter, c'est-à-dire que il y a eu énormément vraiment de, je dirais peut-être pas de moqueries, mais de voilà, de sarcasme sur le fait que tout le monde en fait s'est comporté à peu près n'importe comment, puisque voilà, s'il y en a qui savaient pas faire de boussole, il y en a qui se retrouvaient à trois sur une balise alors qu'il y avait une balise qui était laissée un petit peu toute seule. Voilà, c'était une épreuve encore bien chaotique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Si, totalement d'accord. C'était d'ailleurs assez drôle à voir. J'ai trouvé d'ailleurs les retours sur l'épisode un peu méchants. Une saison où on s'ennuie un petit peu comme celle-là, cette fin de saison un peu prévisible, on a quand même eu une orientation que je trouve relativement divertissante. Alors je suis loin d'être celui qui est le plus clément avec la saison en temps normal, mais c'était marrant de les voir faire n'importe quoi. Laure qui a passé l'épisode à geindre et à se plaindre parce qu'elle ne savait pas faire fonctionner sa boussole, qu'elle a fait 3 ou 4 allers-retours à la table d'orientation, c'était quand même très rigolo à voir. Évidemment, on passera peut-être plus tard sur les erreurs qu'ils ont pu faire, qui sont multiples, la désorganisation la plus totale. Donc, moi, je n'ai pas boudé mon plaisir devant cet épisode, même si c'était effectivement très chaotique.
Alors, oui, chaotique. Après, je serais tenté de dire une chose, c'est que il y a une chose qui m'a un petit peu interloqué, c'est que il y a quand même eu deux poignards trouvés les deux premières heures, alors que le déroulé de l'épisode nous laisse penser que tout le monde a galéré comme pas possible. Donc je me demande si le montage n'a pas un petit peu exagéré les difficultés pour meubler, parce que on sait qu'il y a eu cette tendance à faire des demi-épisodes pour l'orientation, mais je pense que là, c'est la première fois où c'est plus ou moins planifié par la production. Donc vu que la première fois, c'était en raison de la première pandémie, du premier confinement durant la pandémie. La deuxième, il me semble que c'était par rapport au fait que Denis Brognard ne pouvait pas rentrer plus tôt, alors que là, je pense que par rapport à l'Euro de football, c'était planifié. Donc je pense que sur cet épisode-là, ils ont vraiment fait un montage qui mettait en avant les difficultés. Après, oui, il y a des trucs qu'on peut pas inventer, dont on reparlera. Je veux dire, c'est vrai que la couleur blanche, je pense que ça va rester culte. Mais,
oui, une fois deux en plus.
Mais je pense, oui, mais on en reparlera. Mais honnêtement, je pense que les difficultés ont été largement exagérées au montage parce que les temps des deux premiers poignards ont été pas si déconnants que ça par rapport à l'habitude. Du coup, ça me fait penser qu'il y a plusieurs candidats qui n'ont pas été beaucoup plus en galère que des candidats d'autres saisons, mais qu'il a fallu plus les montrer pour meubler l'épisode. Et je pense que ça contribue un petit peu à ça. Après, sur la mauvaise réception de l'épisode, je pense qu'elle s'explique par une chose, c'est pas par la qualité de l'épreuve d'orientation en elle-même, c'est que honnêtement, je l'ai trouvée très divertissante. Je pense que tout simplement, c'est parce que il restait presque aucun favori. Je veux dire, qu'est-ce qui reste? Il reste Lucie, que pas grand monde n'apprécie, malheureusement. Je veux dire, les fans casual, on va dire, le public général lui en veut d'avoir éliminé Vincent. Et nous, les pros stratégie, on lui en veut d'avoir joué comme un pied. Donc, ça, déjà, Lucie, elle est blacklistée. Jonathan, ça a l'air d'être un très gentil garçon, mais sur le montage, voilà, il est quand même un peu transparent, il dit beaucoup de banalités, donc c'est pas quelqu'un qui va avoir un fan club géant comme Claude ou Teyoura. Ensuite, on a Laure qui a quand même eu plusieurs moments où elle s'est montrée désagréable en début de saison, et ça la poursuit quand même beaucoup, que ça soit dans le public général et un petit peu dans un public plus pro-stratégie, genre les personnes qui nous accompagnent tous les vendredis soirs pour les lives sur le serveur Discord d'ADF. N'oubliez pas de venir. Et ensuite, on a quoi? On a Arnaud qui était évidemment un petit peu le chouchou de tout le monde, mais qui va être éliminé. Et on a Maxine qui, dans le public général, semble avoir pris une haine pas possible. Et qui, même parmi nous, elle fait pas totalement l'unanimité. Je sais que moi, je l'apprécie beaucoup, Maxine, mais j'ai bien vu sur le serveur pendant le live que voilà, qu'elle avait quand même son petit lot de détracteurs. Donc voilà, ça fait que sur la finale, il y a sur le match à 5, il y avait qu'une seule personne qui semblait intéresser tout le monde. Elle a même pas gagné. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui fait que la réception de l'épisode a été très tiède. C'est que une épreuve d'orientation où t'es pas impliqué derrière 4 des 5 candidats, enfin moi derrière 3, et où celui derrière lequel t'es impliqué ne se qualifie même pas, voilà, c'est niveau public général, franchement, si j'étais dans une ambiance un petit peu plus casual, honnêtement, je me demande si je regarderais la finale la semaine prochaine, et c'est très triste à dire. Donc voilà, c'est pour dire que la réception de l'épisode, pour moi, c'est pas lié à la qualité de l'épreuve ni du divertissement, c'est vraiment lié au casting qu'on a eu.
Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Gino. Je rajouterais quand même que ça reste une très mauvaise idée de divider l'épisode final en deux parties. On perd quand même sacrément l'enjeu, la montée en puissance des derniers épisodes, des derniers jours sur l'île. Ça fait déjà du coup 3 saisons, tu disais, que c'est le cas, et je trouve vraiment que c'est une idée vraiment mauvaise. C'est tiré sur la corde. Alors évidemment, la production va continuer, puisqu'ils ont encore réalisé des records d'audience, etc. Donc forcément, ils doivent s'en frotter les mains, hein, faire un épisode de plus, une semaine de plus. Évidemment, pour eux, c'est intéressant. Après, en termes télévisuels, bien sûr, ça reste frustrant pour tout le monde. Mais bon, on continue de regarder, donc c'est un peu notre faute aussi, on est responsable là-dedans. Je rajouterais quand même que l'orientation, tu trouves, et je pense que beaucoup de monde trouve que c'est une épreuve intéressante, je reste relativement d'accord. En termes télévisuels, toujours, ça reste quelque chose de divertissant, rigolo, il y a souvent des scènes mémorables, cultes, des citations toujours rigolotes, etc. Après, je reviendrai rapidement, même si ça a déjà été dit, mais l'orientation à 5, ça reste, je trouve, exagéré. Je regrette toujours le bon vieux temps d'une orientation où il n'y avait que 4 personnes. 2 éliminées d'un coup, je trouve toujours que c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est aussi tiré sur la corde. À la réunification, on a quand même les ambassadeurs avec un éliminé, 2 épreuves éliminatoires, 2 éliminées d'un coup lors des binômes, là, 2 éliminées d'un coup lors de l'orientation. Au final, on a autant d'éliminés en épreuve et twist, etc., qu'en conseil classique. Je trouve du coup que ça reste quand même fort dommage et que ça impacte le jeu en lui-même. Mais bon, après ça, c'est moi qui suis peut-être un peu trop puriste sur les bords. Mais sinon, très bonne analyse avec toi, Gino. Rien à redire.
Alors, du coup, le premier à trouver son poignard, c'est Jonathan. Et Jonathan, justement, qui était sur la même balise, il me semble qu'il était sur le bois de serre avec Laure. Et du coup, Laure qui va réussir un petit peu à trouver la balise, qui se trompe de direction. Jonathan le suit, parce que Jonathan, en fait, a trouvé la balise aussi. Mais il s'est dit, je vais pas aller à la table, je vais suivre directement Laure. Il a été stratège, il a été malin. Et bien, lui en a pris. Parce que du coup, il trouve le poignard et c'est lui le premier qualifié. Par contre, ce qui m'a agacé, côté, oh pardon, oh c'est pas une belle victoire, oh pardon, gagné, on s'en fiche quoi. On n'est pas là pour prouver à la France entière qu'on est des gentils garçons. Donc, en gros, voilà, donc Jonathan bien joué de sa part, mais c'est cette attitude qui est un petit peu agaçante. Vous en avez pensé quoi?
Donc en fait, oui, pour Jonathan, je t'avoue que toute la séquence où il s'est excusé, j'avais peur qu'à la fin il finisse par. Oui, maîtresse, pardon, maîtresse, frappez-moi, maîtresse. Mais il en était vraiment à ce niveau-là. Il s'est aplati, même crêpe est moins plate, quoi. Il s'est vraiment excusé très, très platement. Et là, ça me fait peur pour une chose, c'est que ça me fait penser que, enfin, c'est pas la première fois que je le pense, mais beaucoup de candidats s'auto-censurent sur Koh-Lanta. C'est-à-dire que beaucoup sont conscients de l'image qui renvoie. Sur les réseaux sociaux, de manière générale. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra le couper au montage, ça, mais je me rappelle qu'il y a un candidat qui, par rapport à l'image qu'il avait eue durant sa saison de Koh-Lanta, qui a eu une certaine méfiance dans son milieu professionnel. Donc, c'est quand même là que c'est assez grave. c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui s'auto-censurent dans Koh-Lanta. Et ça nuit complètement au jeu. Mais en plus, voilà, Koh-Lanta, c'est quand même une expérience sociale qu'on est complètement en train de fausser avec cette perception générale. C'est-à-dire, on a l'impression que non, Koh-Lanta, c'est pas chacun se débrouille avec ses armes. C'est chacun doit se débrouiller avec les armes approuvées par le public. C'est pas du tout la même chose. Et disons que voilà, je pense que ça appauvrit le jeu stratégique. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que les gens confondent le fait que Koh-Lanta, ça se joue avec de vrais sentiments, avec le fait que Koh-Lanta, c'est la vraie vie. Non, ce n'est pas la vraie vie, c'est un jeu dans lequel, oui, il y a une notion de jouer avec les sentiments. C'est-à-dire que, non seulement, vu que le jeu a une forte dimension sociale, non seulement, si jamais tu te montres trop désagréable, les gens ne peuvent plus te suivre dans ta stratégie, n'est-ce pas, Shanice ? Et si jamais tu t'y prends d'une manière beaucoup trop brutale dans ton jeu, même si tu vas en finale, tu peux être vaincu devant le jury par une personne qui a une meilleure capacité sociale. Et donc voilà, ça c'est un jeu qui se joue avec des sentiments, on va pas dire le contraire. Koh-Lanta, c'est pas un jeu de robot. Et c'est ça qui est très bien dans Koh-Lanta d'ailleurs. Mais le fait que ça soit un jeu qui se joue avec des sentiments, ce n'est pas le synonyme que l'attitude que tu as dans le jeu elle se retrouve dans la vraie vie. Je veux dire, si jamais vous pensez que parce que votre gamin triche au Monopoly, ça va devenir un braqueur plus tard, je pense que tout de suite, il faut vous retirer votre brevet de parent, quoi. C'est idiot, un jeu, ça reste un jeu. Et puis, n'oubliez pas, il y a 100 000 euros au bout. C'est quand même une somme, c'est pas le million qu'il y a dans Survivor, mais c'est quand même une somme qui peut changer beaucoup de choses dans une vie. Donc, voilà, c'est... À partir du moment où les candidats ont accepté que c'est un jeu, acceptez-le vous aussi. Et tant que le public n'acceptera pas que c'est un jeu, Koh-Lanta ne pourra pas vraiment décoller en termes de jeu stratégique, en termes de retournement. Vu que, voilà, si jamais il y a cette acceptation sociale qui ne passe pas, ne comptez pas sur les candidats pour se donner une sale réputation juste pour votre divertissement. Comme ça a des vraies conséquences pour eux. Et donc, voilà, c'est cette autocensure qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup gêné avec Jonathan. Je vais laisser rebondir Zangus dessus, mais j'aurais d'autres choses à dire aussi à propos de cette preuve d'orientation côté Jonathan.
Oui, bah, je vais peut-être t'emboîter le pas, sur ce que tu disais sur Jonathan. C'est vrai que c'était assez déroutant, cette attitude à s'excuser, etc. Après, je nuancerai légèrement en disant qu'il a quand même reconnu sur la fin, face à Denis, que oui, c'est... je n'ai rien fait qui était contre les règles. Bah oui, Jonathan, on sait bien justement, donc arrête de t'excuser, assume un petit peu. Après, je pense qu'il y avait une part de jury management, comme j'ai envie de dire. Je pense qu'il avait très peur que l'or lui en veuille. Il se disait peut-être aussi, par rapport au jury, etc., que ça serait peut-être mal vu. Donc je pense qu'il a voulu aussi... modérer son enthousiasme, etc., par rapport à ça aussi. Mais c'est vrai que le voir se lyncher alors qu'il n'est pas méritant, alors que, bon, je pense qu'il a fait preuve de malice, au contraire, et même d'un certain fair play, parce qu'il a quand même aiguillé l'or avec sa boussole, là, si j'ose dire, et faire ce jeu de mots. Mais c'est vrai que non, je comprends pas trop l'attitude de Jonathan... À part si c'est bien sûr pour se faire bien voir du jury, mais c'est vrai que sinon c'était assez triste à voir, sachant que Denis n'était pas non plus le plus impartial, une fois n'est pas coutume, a pas mal lui ressassé qu'effectivement c'était peut-être un petit peu discutable, etc. A bien remué le couteau dans la plaie auprès de Laure, à la fin en mode « Ah là là, alors pas trop dégoûté », et Laure qui pleurait toutes les larmes de son corps après avoir pleuré 4 heures dans la jungle. Donc oui, non, c'était très triste à voir et presque pathétique, j'oserais dire, sans connotation négative de ma part, juste dans le sens presque ridicule, quoi. Donc, alors qu'au contraire, Lucie, qui a quand même aussi fait preuve d'un peu de roublardise à certains moments, changeant de cible, changeant d'arbre repère, etc., est la seule qui a eu un peu un montage héroïque sur sa trouvaille de poignard. Ce que je trouve au final un petit peu à double standard, parce que Jonathan est resté plutôt droit dans ses bottes à ce niveau-là, il est resté sur son arbre, il l'a annoncé. Bon, au final, la notion de mérite reste toujours aussi floue. Mais bon, c'est Koh-Lanta.
Mais en parlant de Jonathan, pour revenir à la manière dont il a trouvé son poignard, c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose, c'est que pour moi, il n'a pas été futé de ne pas jouer le fait d'aller lui-même à la table d'orientation, parce que compter sur le fait que quelqu'un va bien utiliser une boussole dans Koh-Lanta, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent avec la boussole. Donc,
ça, c'est sûr.
Tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je pense que on le dit chaque saison, mais oui, ce nombre de personnes qui n'apprennent pas à utiliser une boussole avant Koh-Lanta, enfin, c'est quand même pas sorcier. Ça prend, tu regardes un tuto internet ou tu lis une notice de boussole, enfin voilà, tu le sais le faire en 2 minutes. La preuve, Jonathan a appris alors en 30 secondes, donc c'est toujours aussi déroutant et drôle à voir, mais oui, bon. Donc pardon, hein, je voulais pas t'interrompre, mais c'est vrai que ça me fait rire aussi.
Oui, oui, mais t'as tout à fait raison de le souligner, mais voilà, c'est pour dire que je pense vraiment qu'il a fait un mauvais choix en se disant que suivre l'or, ça serait une bonne idée. Après, d'ailleurs, justement, il a eu une très bonne réflexion ensuite de partir à l'inverse en se disant qu'elle a dû tenir sa boussole à l'envers. Et en effet, c'est là qu'il a pris le poignard. Mais voilà, c'est que je pense qu'il a fait une mauvaise réflexion là-dessus. Après, je serais tenté de dire que c'est une conséquence de la très mauvaise règle qui a été soulignée sur le chat voilà, par Hikaru. Bon, pas une surprise. Ça a été souligné sur le chat par Hikaru que cette règle, pendant l'orientation à 5, d'aller devoir retourner sur la table d'orientation pour trouver les couleurs, que vraiment cette règle, ça, c'est une règle qui est vraiment très toxique, vu que ça retire une possibilité stratégique dans le jeu. Est-ce qu'on garde ça en tête, quitte à être moins concentré ? Est-ce que on se concentre à fond sur la recherche, quitte à aller devoir aller à la table ? Disons, ça aurait été une bonne option stratégique, et là, on la retire, et disons que, bah, par exemple, si jamais Jonathan avait pris cette option stratégique, on n'aurait jamais eu ce drama. Et ça me fait penser une chose, c'est que pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui pensait que la production faisait tout pour favoriser les candidats sportifs. Bon, sur cette saison-là, ils sont tous sportifs, donc... Mais je pense en réalité que je me suis trompé un petit peu dans mon jugement. La production ne favorise pas les candidats sportifs. Elle ne favorise pas les candidats stratégiques. Elle ne favorise pas les candidats sociaux. Elle favorise les dramas. Et là, c'est vraiment une règle qui a été faite uniquement pour ajouter du drama. Et j'ai vraiment l'impression que, de manière générale, pas seulement cette règle de l'orientation, mais rien que le fait que l'orientation soit à 5, le fait qu'on ait plein d'épreuves éliminatoires... Le fait qu'on ait des retournements un peu dans tous les sens de format, comme je l'ai entendu, oui, c'est que il doit y avoir même pas la moitié qui sont éliminées par un conseil normal. Et ça me fait penser que Koh-Lanta, bon, il y a toujours eu un peu de cette dimension-là, vu que ça reste un programme TF1, mais Koh-Lanta, c'est vraiment en train de devenir une usine à drama. Et là, oui, la patte Alexia La Roche-Joubert se fait un petit peu ressentir. Hein. Je suis désolé de le dire, quand on revient de la télé-réalité, on sait que l'usine d'un drama, c'est porteur. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Et j'ai quand même l'impression que sur cette saison, on a un peu atteint le sommet. Quoi. Et je pense que c'est peut-être ça qui rend cette saison aussi indigeste, surtout sur les dernières semaines, une fois qu'on n'a plus des personnages comme Vincent pour nous sortir un peu de tout ça.
Parce qu'au final, ça reste du drama un peu artificiel, quoi. C'est-à-dire, on va mettre des choses pour les déstabiliser, sans se dire que justement, le plus déstabilisant, c'est de faire confiance en l'humain, et faire confiance un petit peu en la, en l'intelligence et en l'astuce de son casting.
Ah, c'est ça, Damien. Mais après, voilà, je sais que sur les podcasts précédents, je faisais souvent des allusions au catch. Et tout le monde me demandait, mais c'est quoi le rapport entre le catch et Koh-Lanta ? Et en fait, justement, c'est cette volonté de la production de provoquer les choses. En fait, c'est que dans le catch et dans Koh-Lanta, il y a un point commun majeur, c'est que on cherche à faire du bon storytelling. On cherche à faire des bonnes histoires. Sauf que dans le catch, ils scriptent tout de A à Z, alors que dans Koh-Lanta, ils sont un peu entre deux eaux, et donc du coup, ils sont un peu entre deux feux. Surtout que sur Autour du Feu, c'est un peu con de confondre le feu et l'eau, mais bon. Dans Koh-Lanta, en fait, j'ai l'impression que bon, ils peuvent pas se permettre de favoriser à outrance un candidat en particulier trop loin, qui est tout à leur honneur, même si bon, il y a quand même des moments où ça favorise un peu, hein, genre l'île des héros avec le twist qui protège les héros, ou bien la fin de saison, je sais plus quelle saison c'était, mais c'était la saison que André a remporté avec l'évacuation qui tombe vraiment au pire moment, enfin au meilleur moment, je devrais plutôt dire. Et en fait, l'impression que ça me donne c'est que en fait, Koh-Lanta, c'est comme si jamais on décidait de scripter le catch, mais en tirant au sort les vainqueurs. C'est-à-dire, il faut non seulement des scripts, mais en plus des scripts qui n'ont aucun sens. Je veux dire, là, par exemple, on s'est retrouvé avec une production qui a foutu le bordel pas possible à un moment où on avait déjà une saison divertissante et qui n'intervient plus au moment où on se fait chier. Et disons que, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'être entre deux feux, il y a ça. Alors, je ne vais pas leur dire de scripter l'émission, vu que c'est une télé-réalité. Il ne faut pas scripter une télé-réalité, c'est idiot. Mais il faut vraiment retrouver l'aspect réalité de Koh-Lanta. Et je pense que le jour où on retrouvera l'aspect réalité de Koh-Lanta, j'arrêterai de faire des références au catch.
Et là, il y a Hikaru sur le chat qui nous donne une stat assez hallucinante sur cette saison. 11 candidats sur 21 ont été éliminés au conseil. Donc Gabin, Frédéric, Mathieu, Laetitia, Flavio, Arnaud et Laure, plus l'éliminé au poteau. Voilà, qui sont éliminés par d'autres, un autre moins que le conseil, ça fait... ça fait à peu près la moitié du casting. Donc, c'est-à-dire que là-bas, c'est un jeu d'élimination sociale. Voilà, c'est qu'on est en train d'en faire une espèce de jeu où, justement, t'as des épreuves avec plus d'épreuves éliminatoires que de conseils. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et que, bon, c'est le drama pour le drama. Et voilà, encore une fois, est-ce que le problème, c'est pas une prod qui veut absolument tout contrôler, c'est-à-dire avoir un cast assez lisse d'un côté, et puis de l'autre côté, leur mettre des... voilà, c'est tout bénéf pour eux, parce qu'ils contrôlent tout, tant pis pour le spectacle, mais les gens regardent, donc... voilà, j'ai l'impression que ouais, ça reste quand même un petit peu impératique, quoi, de leur base, et quoi. Pour l'instant, ça marche, mais à force de rester comme ça, est-ce que ça va pas lasser les gens?
Pour le moment, ça n'a pas l'air de lasser grand monde, puisque, comme je le disais un peu plus tôt dans le podcast, ils ont fait un record d'audience encore lors de l'épreuve de l'orientation. Donc malheureusement, non, c'est ça le problème, c'est que ça fonctionne. Donc je pense que tant que ça fonctionnera pour le public français, ils vont continuer dans ce sens-là. Et quelque part, en regardant, on leur donne raison, mais en même temps, on a envie de regarder et d'y croire. Donc c'est vrai qu'on est dans une sorte de... C'est le serpent qui se mord la queue un peu, donc voilà, c'est le problème. Mais bon, on verra bien où ça ira, mais je le regrette aussi.
Alors on va passer ensuite à la deuxième balise. Alors on était à un moment, donc Arnaud était tout seul sur sa balise, donc il était bien, sauf qu'en fait, il s'est complètement perdu. Et du coup, Lucie et Maxine, qui étaient à la base sur le corail, se retrouvent du côté de la souche torsadée. Et Maxime la rejoint, ce qui fait qu'il se retrouve à trois sur une même balise, alors que il n'en avait pas forcément besoin. Et du coup, ouais, ce jeu-là, la deuxième qui se qualifie, bah c'est Lucie. Et alors Lucie, ouais, c'était, je crois que vraiment elle a dédicacé sa victoire un petit peu à tout le monde. Et bon, c'est voir Lucie en finale, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Jonathan, quelque part.
Oui, Lucie qui trouve le deuxième poignard. Bon, je trouve ça intéressant au final quand même. Je suis pas un des grands défenseurs de Lucie, hein, depuis l'épisode du bracelet noir. Je vais pas m'étaler sur Lucie, je pense que vous l'avez très bien fait dans les épisodes précédents. Mais comme le souligne quand même Vincent, on a quand même une petite session sur le jury final au tout début de l'épisode où on voit l'arrivée de Magali, où d'ailleurs Flavio n'est pas du tout passé dans le récap. Le pauvre Flavio, on l'aura vraiment jamais vu, même dans le jury, même dans le récap de l'épisode. Ce pauvre Flavio, il se fait totalement ghoster. Et donc je disais, ouais, Vincent, il a quand même une bonne remarque sur Lucie qui dit, malgré tout, alors oui, elle joue un petit peu chaotique, elle est quand même bien aidée par les avantages qu'elle trouve par chance ou par malice. On voile de mystère sur ce sujet une fois encore. Mais c'est vrai que Lucie joue quand même, elle essaye avec... Alors des fois c'est frustrant pour nous téléspectateurs parce qu'évidemment c'est pas comme on le voudrait ou c'est pas optimal ou etc. Mais c'est vrai que Lucie joue quand même, donc il faut lui reconnaître ça. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais voilà, donc pour sa recherche, c'est vrai aussi que c'était très chaotique pour la recherche de poignard. Avant le départ pour l'épisode, on entend Jonathan, je crois, ou Arnaud, qui disait que les garçons vont faire en sorte de se partager et pas se mettre sur le même repère. Les filles partiraient a priori sur la même stratégie. Au final, on voit que Lucie et Maxine partent sur le même arbre, enfin le corail, pour finalement se perdre et se dévier ensemble ailleurs encore. Alors, c'est vrai que niveau organisation, bon, Lucie et Maxine ne nous ont pas montré qu'elles étaient forcément au top. Après, bon, elle a trouvé le poignard, c'est l'orientation, c'est aussi facteur chance. On ne peut pas lui enlever ça, donc ça joue hein, malheureusement dans Koh-Lanta, et il faut faire avec. Mais je pense que Lucie, sa présence sur les poteaux n'est pas inintéressante. Et je pense que même si effectivement ses chances de victoire sont très maigres, je me réjouis en tout cas quand même de la voir aller potentiellement en finale et je serais curieux de voir les arguments qu'elle avancerait, quel serait son angle d'attaque et de discours face à un jury, parce qu'elle a quand même donné la dynamique de la saison, hein, mine de rien, Lucie, en tout cas de la réunification, avec en donnant vraiment le vrai avantage au rouge, etc. Donc non, je me fais quand même l'avocat de Lucie, ce qui me fait pas du bien, hein, je vous avouerai. mais voilà, le trouvaille de Lucie, oui, bon, elle est là, elle a eu de la chance.
Alors oui, en ce qui concerne Lucie, oui, c'est vrai qu'il y a eu un montage assez étonnant, vu que mine de rien. C'est la seule dont le succès a été vraiment glorifié, alors que Jonathan, honnêtement, il a vraiment pas fait de coup fourré, à part le fait de ne pas aller à la table, et encore, sur le coup d'aller à la table, on peut noter que il a quand même eu l'intelligence de se dire, vu que Laure s'est trompé, je vais faire l'inverse, et deux, de l'aider à tenir la boussole, ce qu'il n'était absolument pas obligé de faire, donc... mine de rien, on aurait pu rendre Jonathan beaucoup plus sympathique dans le montage de cet épisode. En fait, non, la production a fait le choix d'héroïser Lucie, qui n'est franchement pas la personne la plus populaire de la saison, va-t-on dire, par rapport à son jeu. Après, c'est vrai que le fait de l'avoir sur les poteaux, c'est une dynamique qui est quand même assez intéressante. C'est-à-dire que, déjà, le premier mérite que ça. Oui, je sais que j'ai utilisé le mot mérite, hein, mais ça a été quand même beaucoup le cas pendant tout l'épisode. Hein. Peut-être une des raisons pour lesquelles les fans de stratégie ont été un petit peu ennuyés par cet épisode, mais bon, passons. Mais par rapport à Lucie, en fait, le gros mérite que ça a, le fait qu'elle soit sur les poteaux en plus de Jonathan, c'est de se dire qu'il n'y a pas de duo Maxine-Laure sur les poteaux, vu que si jamais Maxine et Laure étaient sur les poteaux, au moment où la troisième personne tombait, on savait qui était en finale. Là, on peut se dire qu'il y a un peu plus de choix stratégiques, donc je pense que déjà rien que ça, c'est quelque chose qui fait que c'est pas si mal de voir Lucie sur les poteaux. Alors après, à titre personnel, je suis un petit peu comme beaucoup de monde. J'aurais préféré voir Arnaud, Maxine et Jonathan, vu que je pense que c'était le meilleur compromis en termes de suspense et en termes de candidats intéressants. Mais voilà, mine de rien, le fait de voir Lucie, ça a ce mérite-là. Et ensuite, par rapport aussi au potentiel de l'avoir au final, c'est vrai que j'aimerais bien voir comment elle va faire pour se défendre avec un jury aussi hostile, quoi. C'est-à-dire que déjà les jaunes de la première, les jaunes du noyau des quatre, ils lui en veulent parce que elle a quand même bien contribué au départ de Myriam. Donc ça, pour eux, bon, on sait maintenant que comme ils parlent en termes de traîtrise et tout, donc ils la voient comme une traîtresse. Ensuite, il y a Vincent et Laetitia qui ne doivent pas beaucoup plus l'aimer. Ensuite, il y a...
Vincent oui, l'a quand même défendu dans le jury, que... excuse-moi d'interrompre, mais dans le petit segment qu'on voit, voilà, c'est vrai qu'elle est quand même glorifiée dans l'épisode c'est par ça. Rapport à ce que nous, on s'attend à voir.
Mais voilà, pendant qu'on parlait de Vincent... Après, est-ce que Vincent il privilégiera une Lucie qui lui a fait ce coup de Trafalgar par rapport au fait qu'il avait pas mal bossé avec Maxine ? Ça, je sais pas. Ensuite, il y a Magali avec qui elles étaient un petit peu en rivalité au moment de leur sortie. Donc, et en plus, maintenant, on sait que les Rouges n'ont pas l'air de lui porter une très grande estime. Donc, on va dire que c'est quand même un petit peu chaud pour on va dire que c'est un petit peu chaud en termes de potentiel jury pour elle. Après, voilà, pour revenir à ce que tu avais dit, Zangou, sur le jury, oui, j'étais très, très étonné de ne pas voir l'arrivée de Flavio. C'est-à-dire, pour moi, c'était limite le seul truc qui aurait pu être intéressant en termes de jury, vu que, bon, Magali, voilà, quand le jury, on leur a dit « c'est Magali qui est sorti », ça les a autant étonnés que si on leur avait dit « le ciel est bleu aujourd'hui ». Oui, c'est Magali sort, oui, on s'en doute.
C'est exactement
alors que
ça.
Flavio, bon, même si c'est pas une grande surprise, on aurait quand même aimé voir les interactions qu'il a avec les autres jaunes. Voir s'il a plutôt pris le parti de Vincent ou s'il a plutôt pris le parti des quatre. Apparemment, de ce qu'on a cru comprendre dans les interviews hors du jeu, Flavio et Vincent ont l'air assez proches. Donc je pense qu'il a peut-être été de leur côté, que ça a peut-être été un petit peu contre la narration d'un jury à sa mère. Donc je l'imagine, c'est peut-être à cause de ça, mais c'est quand même dommage qu'on ne nous donne pas cette information-là. Voilà, pour en revenir ensuite au parcours de Lucie sur la preuve d'orientation, bah oui, parcours très classique, donc oui, montage héroïque qui va quand même très à contresens de ce qu'on a vu jusque-là. Donc est-ce que c'est une fausse piste pour nous dire que avec le coup de l'association, elle va peut-être pouvoir gagner, pour nous donner un petit peu de doute au moment de la finale, ou bien est-ce que c'est parce que les monteurs n'ont pas du tout anticipé le fait qu'elle allait se prendre un petit monceau de haine après ce qui s'est passé avec Vincent. Je veux dire, les monteurs, ils devraient quand même mieux connaître leur boulot dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant dans le montage de cet épisode. Après, on a bien vu qu'il y avait, même si le montage de la saison en globalité était plutôt bon, il y a quand même quelques trucs qui ont été un petit peu à avoir le cerveau retourné, c'est-à-dire que le fait de ne pas du tout insister sur Flavio alors qu'il a quand même une place importante, le fait de ne jamais parler de l'amitié entre Lucie et Maxine avant le moment où Lucie se décide soudainement de la sauver. Enfin, bon, l'amitié, c'est vrai que quand on voit Maxine, on a l'impression que l'amitié est un peu à sens unique, mais voilà, ça a quand même été intéressant de le montrer. Et voilà, c'est vrai que même s'il y a eu quelques fautes comme ça dans le montage, la globalité du montage a été plutôt bon. Donc on peut vraiment se demander s'il y a un sens derrière tout ce qui s'est passé autour de Lucie sur cet épisode. Et ça, c'est intéressant.
Je pense qu'il y en aura, c'est pas anodin quand même pour un épisode final. Et je me réjouis d'autant plus, enfin je rebondis un petit peu aussi sur ce que tu disais, tu parlais des poteaux où tu aurais préféré y voir Arnaud à la place de Lucie. Moi, au contraire, je pense que c'est très bien que Lucie y soit, parce qu'on a perdu un membre de chaque binôme. Arnaud et Jonathan formaient un binôme sur la fin de jeu. Pareil pour Laure et Maxine. Donc là, ça rend les choses un peu plus ouvertes, un petit peu plus intéressantes. Donc non, moi, je suis content de la place de Lucie pour les poteaux. Ça rend la chose un petit peu moins prévisible, ce qui est quand même mieux. Et voilà, je souligne ça.
Alors, on va passer ensuite... Donc à la dernière balise, donc c'était le corail, forcément. Et ils ont galéré. C'est-à-dire que Arnaud et... Alors, je ne sais plus qui est-ce que c'est, Laure, je crois, qui tombe sur la balise, mais qui ne voit que l'endroit où il y a marqué le nombre de pas, ils ne voient pas la couleur à côté, donc ils essaient de voir du blanc. Et de son côté, genre Maxime, qui suit un petit peu comme ça de un peu tout le monde, et qui finit par trouver le poignard, mais sous une pierre, et Maxime, qui se retrouve la dernière qualifiée. Je sais pas vous, mais moi, je suis content de voir une personne du binôme Laure Maxime arriver en finale, parce que voilà, je pense que c'est le duo qui a vraiment un petit peu décidé du jeu pendant toute la phase réunification. Et au final, voilà, c'est quand il y a eu le plus d'influence, et je suis content d'en voir au moins une des deux, surtout que Laure, qui était peut-être un peu plus brute de décoffrage, du coup c'est pas sûr que ça aurait passé face au jury. Maxine était quand même un petit peu plus en retrait, donc je suis assez content. Mais pareil pour vous, alors du coup cette dernière phase de l'orientation, est-ce que vous avez eu des choses à dire?
Un peu comme toi de mon côté, Damien. C'est vrai que j'ai trouvé la présence de Maxine sur les poteaux plutôt cool, parce que elles ont quand même été dans le driver seat avec Laure durant toute la réunification, depuis l'ambassade en fait jusqu'à maintenant. Donc je trouve ça important qu'il y ait un membre de ce binôme qui arrive au bout. D'ailleurs, je ne me cache pas d'être plutôt pour Maxine dans ce top 3 que je trouve qui a été plus stratège, même si c'est pas toujours revendiqué et pas toujours glorifié ou bien montré dans la saison, malheureusement. Et je regrette tout le déferlement de haine ou de tweets haineux qu'elle a contre elle, la pauvre Maxine, qui ne mérite certainement pas tout ça, surtout après un tel parcours, à son âge, etc. Je pense d'ailleurs que Maxine n'a quand même pas eu un montage si défavorable. Alors c'est vrai qu'au vu de sa performance dans l'orientation, qui a été quand même très hasardeuse, elle a été sur le corail, finalement elle s'est perdue, elle est tombée sur le bois de serre, elle est revenue sur le corail, par chance elle tombe sur la balise. Enfin non, je crois qu'elle ne tombe même pas sur la balise. Ah bah si, pardon, parce qu'elle se trompe même de couleur. Elle se trompe de couleur. Enfin c'est vrai que c'était dur de glorifier plus que ça. Mais malgré ça, son histoire personnelle a quand même été bien montrée. On parle de son histoire avec son père, avec les Jeux Olympiques qu'elle n'a pas pu faire à Rio, etc. Je trouve quand même que c'est intéressant. Maxine reste un bon personnage dans la saison, je trouve. Donc non, très 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 satisfait de mon côté. Et cette recherche était quand même... moi j'ai eu de la peine pour Laure. Malgré tout, on sentait que c'était la souffrance. La pauvre, elle a fait vraiment... quasiment toutes les balises à chercher, des allers-retours incessants, elle se fait coiffer au poteau à chaque fois, contre sa copine, c'était mignon, et c'est vrai que même si ça n'a pas été glorieux le montage pour Laure, cet épisode, elle a été montrée tout le temps en train d'être grossière, à lâcher des putains, des « ça me fait chier, j'en ai marre », la pauvre Laure, elle a quand même pris cher sur cet épisode. J'ai pas pu m'empêcher d'être un peu triste pour elle. Quand elle fait son dernier au revoir à Maxine en craquant, c'était quand même très mignon. Et du coup, ouais, non, content de la place de Maxine sur ses poteaux. Ou d'ailleurs, je pense qu'elle part favorite en termes de profil. Des petits pieds, on glorifie son équilibre depuis toute la saison, depuis l'épisode 1 sur les poutres, jusqu'à l'immunité qu'elle a gagnée, etc. Donc non, je pense que Maxine part favorite large haut la main. Donc, mais bon, je m'avance peut-être un peu trop.
Alors, sur ce troisième repère, alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce troisième repère. D'abord, vu qu'on parlait d'Arnaud et de Maxine, alors je voudrais un tout petit peu décharger Arnaud et Maxine pour le coup du blanc, parce que il se trouve que sur le serveur, on a un habitué qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Je parle bien entendu de SLZ, la divinité de Nevers, nous a confié que, en regardant l'épisode avec sa famille, il a fait exactement la même erreur. Il a cru que la balise était blanche. Et en fait, je pense que c'est lié au fait que le coloris beige est peut-être pas assez contrasté et que ça leur a pas sauté aux yeux comme si c'était du rouge. Et donc, du coup, ils se sont peut-être mis en tête que le blanc, c'était la couleur et c'est là aussi le problème de pas avoir la table au début, vu que s'il y avait la table au début, ils auraient bien vu qu'il n'y avait pas de blanc dessus. Et là-dessus, disons que, voilà, il faut un petit peu pardonner, même si dans l'absolu, l'erreur est quand même très ridicule, mais disons que voilà, quand il y a une erreur ridicule, il y a souvent une raison derrière ça. Ensuite, oui, il faut qu'on parle évidemment de Maxine qui se qualifie. Alors, à titre personnel, j'ai été très très content de l'avoir se qualifié. Je sais que c'est pas l'opinion la plus populaire du monde, mais même si j'aurais apprécié une victoire finale d'Arnaud comme un peu tout le monde, la personne que j'appréciais le plus dans cette finale à 5 et même depuis que Vincent est éliminé, c'est Maxine. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on montre quand même bien que c'est la personne qui a stratégiquement le plus... parmi ceux qui sont allés loin, stratégiquement, c'est sûrement la personne qui a le mieux géré sa barque. Elle était dans une situation très compliquée. Je veux dire, elle était complètement minoritaire contre les garçons rouges. Ensuite, elle a quand même réussi un coup assez intéressant. C'est qu'elle a réussi à éliminer des garçons rouges tout en ne compromettant pas la situation des rouges au final. C'est-à-dire grâce en profitant aux divisions des jaunes, en profitant du fait que Lucie s'est trouvé pas mal d'atomes crochus avec elle. Alors, Maxine, je suis très content qu'elle soit sur les poteaux, parce que sur cette finale à 5, et même pas que sur la finale 5, je dirais même depuis que Vincent a malheureusement été éliminé, c'est de loin la candidate que je préfère. C'est-à-dire, déjà sur son jeu, parce que stratégiquement, elle a quand même bien retourné la situation. C'est qu'elle était dans une situation très compliquée avec les filles rouges par rapport à l'alliance de garçons qui était dominante. Elle a réussi à tailler dans cette alliance de garçons tout en ne compromettant pas les chances finales des rouges. Donc elle s'est vraiment mise dans la position dominante. Et ça, c'est lié au fait qu'elle a réussi à bien jouer sur les sympathies qu'elle pouvait avoir avec Vincent, parce que oui, c'est vrai que peut-être que Vincent, le fait en tant que garçon qui, voilà, qui est un peu maniéré, comme il le dit lui-même, le fait de voir une alliance de machos contre lui, forcément, ça a dû lui faire un peu de mal au cœur, qu'elle ait profité du fait qu'il soit un petit peu en marché les jaunes également. On se doute bien peut-être que le côté très viriliste de Thomas et Mathieu a dû un petit peu influer là-dessus. Elle a très bien su profiter de ses similitudes de sportive de haut niveau avec Lucie. Donc, de ce fait, elle a bien imbriqué sa stratégie et son jeu social. Et donc, en ça, déjà, c'est très fort. Et en plus, sur les épreuves, alors, je la classerais un niveau en dessous de sa binôme Laure, mais sur les épreuves, elle a souvent été très bien. Alors là, oui, sur l'orientation, elle est à un niveau très, 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 très chaotique, mais il ne faut pas oublier le nombre de belles performances qu'elle a fait. Alors certes, on peut dire que comme il y a eu beaucoup d'épreuves d'équipe cette année, beaucoup d'épreuves statiques, ça l'avantage un peu, et que les épreuves statiques, on se doute bien que c'est un choix de la production par rapport au fait que le lieu de tournage a été décidé un peu à l'arrache. Mais voilà, c'est... Oui, je vois qu'Hikaru note que Maxine a 3 victoires et Laure a 2, mais on a quand même l'impression que Laure est plus constante, alors que Maxine a surtout écrasé les épreuves statiques. Et du coup, je donnerais quand même plus l'avantage à Laure sur le niveau du jeu sportif. Mais voilà, c'est qu'on a quand même l'impression que Maxine, déjà, elle a bien mené sa barque. En plus, le personnage, j'aime beaucoup, c'est-à-dire, oui, elle a des motivations personnelles. J'aime beaucoup le fait que elle a une grande lucidité sur le jeu, c'est-à-dire que, voilà, elle dit que Koh-Lanta, c'est les Jeux Olympiques à elle, mais elle ne traite pas Koh-Lanta comme des Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce personnage-là, c'est que c'est très ironique de voir beaucoup de gens qui considèrent Koh-Lanta comme Koh-Lanta, mais qui croient que les règles, c'est les mêmes que les Jeux Olympiques. Non, gagner 900 épreuves, ça ne te fait pas gagner la victoire finale. Et Lucie, Maxine, bah oui, à force de parler de sportif, mais Maxine, qui voit un petit peu le moyen de récupérer ses Jeux Olympiques perdus, qui, elle, joue à Koh-Lanta comme on joue à Koh-Lanta, voilà, ça prouve la lucidité de la nana. Oui, je te rejoins tout à fait, Solène, sur le chat, elle est ambitieuse, mais elle ne donne pas l'impression d'être orgueilleuse. Et il y a aussi une chose que j'aime beaucoup sur son jeu stratégique, c'est que, oui, elle joue agressif, oui, ça peut lui donner l'apparence d'être un petit peu une vilaine, mais, donc une vilaine, une méchante, mais c'est toujours montré comme les actions de quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour avancer. Quelqu'un de déterminé. Mais on sent qu'elle ne prend pas de plaisir à faire ça. On sent que, voilà, elle voit ça comme une mission, pas comme un moyen de justifier d'être une connasse, quoi. Et je trouve ça très, très, très bien. Et voilà, c'est pour ça que le personnage me plaît beaucoup et la candidate est géniale. Donc, personnellement... j'étais très, très soulagé de l'avoir sur les poteaux. Et je pense qu'en effet, elle est dans une bonne position pour gagner. Mais bon, on en reparlera. Et je voulais faire une dernière chose, pardon, sur ce troisième repère, parce qu'il y a une chose qui est très intéressante sur ce troisième repère, c'est que vraiment, c'était le niveau hardcore pour un repère d'orientation. Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup plus de temps que sur les autres repères. Je veux dire, on a quand même eu un repère. Déjà, le corail fossilisé était très dur à trouver. Je veux dire, sur le coup, Lucie et Maxine s'étaient peut-être dit que ça allait être facile, mais en fait, ça a quand même été très galère à trouver, vu que le repère est quand même assez petit. Ensuite, il y a eu le fait qu'ils te foutent une balise de 48 pas. Donc déjà que les pas, c'est pas une unité précise. Alors 48, on peut très vite se retrouver dans la panade. Ensuite, il y a eu cette histoire de contourner les arbres qui a dû totalement déstabiliser tout le monde. Et enfin, il y a le fait d'aller planquer ça dans l'eau. Et vraiment, en soi, je trouve ça très bien qu'ils foutent un niveau hardcore sur un repère. Mais après, je pense que ça serait mieux dans l'équité de faire un niveau comme ça sur tous les repères, quoi. Et je pense que ça pourrait rendre l'épreuve d'orientation quand même assez épique. Et je pense que voilà, c'est peut-être des pistes à suivre pour la suite. Mais vraiment, pour une fois que je vais dire du bien de la pote sur cet épisode-là, bravo pour ce repère du corail fossilisé. C'était vraiment... très haut niveau, très intéressant.
Je pense qu'on a rapidement fait le tour quand même, puisque ça restait quand même 1h30 mis bout à bout de recherche. Et encore, je dis 1h30, c'était plus 1h15 avec un quart d'heure à la fin dédié aux félicitations à Denis Brognard qui arrive sur le camp le matin du dernier jour avant les poteaux pour débriefer avec que leur parcours, leur vie. Bon, c'était du meublage. C'était... On avait un goût de trop peu à la fin de l'épisode. Je regrette encore une fois que cet épisode soit scindé en deux. Ça aurait donné une épreuve certainement plus rythmée pour l'orientation, parce que même si ça reste une épreuve relativement intéressante à observer, il y avait quelques petites longueurs. On remercie quand même Arnaud et Maxine pour avoir trouvé blanc, 22 pas blanc. Ça a quand même dynamisé et réveillé tout le monde. Sinon, c'est vrai que c'était un petit peu longuet. Et la fin, pareil, indispensable, même si j'ai apprécié tout de même le développement des arcs narratifs des trois finalistes, surtout quand même Lucie et Maxine qui ont profité de leur histoire personnelle plus mise en avant. Jonathan, que je trouve fort sympathique et un joueur avec beaucoup de qualité, qui reste quand même malheureusement en termes de personnage télévisuel assez lisse. Donc ça, je le regrette aussi. J'ai trouvé quand même qu'il y avait moins de choses à dire sur lui. Donc, mais bon, ça donne un top 3 curieux, relativement inattendu, à l'exception de Maxine, que je pense beaucoup de monde a vu venir. Je ne pense pas qu'en début de saison ou en milieu de saison, on pensait forcément voir Jonathan arriver sur les poteaux, etc. Même s'il avait une position un peu en retrait, il a quand même peu souvent été valorisé par le montage à une ou deux épreuves près. Donc, écoutez, j'essaie de trouver des points positifs à la saison et à cet épisode là où il faut en trouver. Il faut creuser un petit peu, mais bon, si on regarde Koh-Lanta et qu'il y a des records d'audience, c'est quand même que on n'a pas tous détesté l'épisode à ce point-là, malgré les critiques qu'on peut lire ça et là. Bon, ça restait un épisode d'orientation correct.
Voilà, pardon, voilà. J'avais du mal avec le micro. Alors ensuite, je voulais quand même dire, en termes d'arc narratif, Zangouz a bien parlé, je veux dire, on a déjà bien parlé de celui de Luxie et de Maxine, et malheureusement, celui de Jonathan n'est pas très très intéressant. Désolé, ça a l'air d'être un garçon charmant, mais j'ai du mal à m'investir dans lui pour le jeu, c'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens s'investissent un peu en lui par défaut, vu que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec Luxie pour les raisons qu'on sait. On sait que Maxine, malheureusement, tout le monde ne l'apprécie pas autant que je ne l'apprécie. Après, voilà, chacun ses goûts. Hein. On n'est pas du tout obligé d'aimer les mêmes choses dans Koh-Lanta. Mais j'aimerais aussi revenir sur les arcs narratifs des perdants. J'ai vraiment l'impression que sur cet épisode-là, on a quand même l'impression qu'Arnaud est assez transparent sur l'épreuve. C'est-à-dire, autant l'or, on a bien vu un petit peu sa maladresse, son désespoir sur l'ensemble de l'épreuve d'orientation. Arnaud n'a juste eu l'impression que, voilà, comme tu le dis, Icarus, sur le chat, Arnaud n'a juste eu l'impression qu'il était paumé. Ça m'a beaucoup étonné, parce que, mine de rien, Arnaud, c'était peut-être sur la finale à 5, c'était peut-être le personnage le plus en couleur, Arnaud. Je veux dire, depuis le début de la saison, il y a quand même un gros focus sur lui, il y a quand même son côté survie qui a été complètement glorifié, je comprends tout à fait pourquoi. Le côté gros, il a quand même un côté très attachant, vraiment. Donc du coup, ça m'a beaucoup beaucoup surpris que sur l'épreuve on nous montre juste qu'il est paumé, mais voilà, pas plus de focus que ça, et ça m'a vraiment beaucoup beaucoup surpris. Alors ensuite,
attends, je peux me permettre de rebondir sur Arnaud vu que tu viens de l'évoquer, mais au final je trouve que c'est dans la suite logique de ce qui nous a été montré. Arnaud, tu l'as très bien dit, il a été montré comme un très bon survivant sur l'île, mais on n'a jamais creusé au-delà du personnage. C'est-à-dire qu'on nous a montré le Arnaud sur Koh-Lanta, mais on a très peu parlé du Arnaud en dehors de Koh-Lanta. Ou en tout cas, ça a été effleuré, évidemment, on a eu un portrait, etc. Mais je trouve quand même que ça n'a jamais eu l'ampleur et des autres personnages comme Maxine avec son histoire personnelle, avec Lucie, qu'on nous rabâche tout le temps ses titres, etc. Alors effectivement, Arnaud n'est pas un sportif, alors certainement que Koh-Lanta s'en fout plus que les autres, mais je trouve, enfin, ça ne m'a pas plus surpris que ça, même si bien sûr, tu as raison de le souligner, puisque c'est regrettable qu'un personnage aussi intéressant qu'Arnaud et exotique, si j'ose ce terme, en termes de casting, en tout cas, il est beaucoup moins consensuel pour une saison de Koh-Lanta. C'est vrai qu'on aurait espéré plus et on n'a pas eu assez. Donc, c'est vrai. Mais je pense quand même que ça reste dans la logique du montage, à ce niveau-là.
Ouais, c'est intéressant, je l'avais pas vu sous cette perspective-là. Après, voilà, pendant qu'on nous demande d'autres choses, il y a aussi le fait que, bon, du coup, maintenant qu'on a la composition des poteaux, on peut spéculer dessus. Et voilà, je sais que pour beaucoup de monde, Maxine est giga favorite, vu que, bon, c'est quand même. On nous a quand même rabâché 950 fois que c'est une gymnaste. Mais je me méfierais quand même pas mal de Jonathan, vu qu'on a vu que ses talents en escalade, ça lui a permis d'éviter beaucoup de chutes pendant les autres épreuves. Et disons que voilà, je n'enterrerai pas Jonathan parce qu'il suffit que Maxine nous fasse un petit coup de déconcentration ou une maladresse, vu que sur la transition, quand on réduit la taille des poteaux, ça peut arriver, une maladresse, une déconcentration. Et voilà, quelqu'un comme Jonathan, je peux le voir tout à fait saisir l'opportunité, vu que voilà, il a quand même un talent pour éviter les chutes. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que sur les poteaux, il y a quand même un match Jonathan-Maxine qui peut être intéressant. Même si, voilà, comme beaucoup de monde, je vois peut-être Maxine plus favorite. Mais voilà, il ne faut pas que vous sous-estimiez les chances de Jonathan. Après, Lucie, j'y crois quand même beaucoup moins. Mais voilà, on sait que Koh-Lanta, tout peut arriver. On peut avoir un moment où on retire deux parties de poteaux, que les trois tombent en même temps, mais que Lucie touche l'eau une seconde après. Donc oui, André a bien gagné les poteaux. Tu as raison de le souligner, Carou.
Mais d'ailleurs, peut-être que Jonathan, effectivement, a une chance sur les poteaux, mais penses-tu qu'il serait capable de choisir Lucie plutôt que Maxine pour aller en finale ? Est-ce que Jonathan ferait ce choix stratégique, si j'ose dire ?
Et là, oui, c'est vrai que c'est là que c'est très intéressant, parce que, honnêtement, si jamais Jonathan était avec Arnaud et Lucie, j'aurais pas douté une seule seconde qu'il aurait choisi Arnaud. Alors que là, on sent que ses liens avec Maxine et même avec Laure, ils sont pas aussi forts. Bon, il y a quand même le fait qu'ils aient passé tout le début de l'aventure ensemble, et que même s'ils s'étaient retrouvés un petit peu en rivalité, au final, ils sont tombés sur leurs pattes. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine proximité, mais il n'y a pas une proximité quasi fusionnelle. Et disons que, voilà, si Jonathan était un candidat plus normal, j'aurais eu aucun doute sur le fait qu'il allait choisir. Si jamais Jonathan était un candidat plus classique, il n'y aurait eu aucun doute sur le fait que Lucie, c'était le bon plan. Après, Jonathan, on a quand même l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine notion de mérite en bouche pas mal de temps. Et que là, on pourrait se dire peut-être que s'il y a cette notion de mérite en bouche, peut-être qu'il a plus envie de se mettre en duel face à une personne qu'il apprécie que face à Lucie. Mais il y a quelque chose qui me fait penser que si jamais il va en finale, il pourrait choisir Lucie. C'est que par rapport à son arc de cet épisode-là, c'est qu'il a bien dit que une fois que on avait passé, une fois qu'on avait l'orientation, voilà, ça donnait une bataille entre tout le monde. C'est-à-dire, on s'aime jusque-là, mais après, il y a plus de cadeaux. Et qu'il a aussi mentionné que tant que c'est dans les règles, ça passe. Et donc, du coup, du fait qu'il se soit mis dans cet état d'esprit-là, peut-être que je me dis qu'il serait tout à fait capable de comprendre que c'est dans son intérêt de choisir Lucie. Donc voilà, c'est qu'il y a un suspense si jamais que Jonathan gagne les poteaux, qui est certain. Mais je pense vraiment que si jamais on me demande de parier sur quelque chose, je ne peux pas le garantir, évidemment, vu que je ne suis pas dans le cerveau de Jonathan et que le montage a été trop parcellaire. Mais je n'exclurais vraiment pas qu'il choisisse Lucie. Je pense qu'il a une lucidité suffisante sur cette finale pour le faire.
D'autant que Lucie étant vue comme la traîtresse jaune, ça serait peut-être bien vu au jury de la personne qui élimine Lucie. Ça pourrait gagner des points en sa faveur. Après, bon, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête et c'est la preuve que malgré 12 épisodes de 2h30 à chaque fois, nous n'avons pas assez d'informations sur certains personnages qui arrivent quand même sur le top 3. Donc la production, le montage reste malheureusement pas assez qualitatif et il y a encore des zones d'amélioration possibles.
Mais par contre, on a vu plein de bouffe.
Ah ça toujours, ça pour la bouffe, on est au taquet, on est en France, cocorico, ça marche.
Bah écoutez, merci à vous deux en tout cas pour avoir bien débriefé cet épisode, puisqu'on a fait une heure quand même, donc merci à toi Zangouze.
Merci vraiment de m'avoir reçu, c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc j'étais très content de participer à ce premier podcast et n'hésitez pas d'ailleurs à écouter le podcast hors sujet que nous avons enregistré avec Romain sur les ORG. Voilà, j'en profite.
Voilà, oui, effectivement, donc très bon podcast. Vous avez très très bien parlé de sujet des ORG. Merci encore une fois Gino pour la cinquième fois.
Merci Damien, merci Zongouz. C'était agréable. Après, je pense que nos auditeurs auront un peu moins d'une heure parce que bon, il y aura quelques fails à corriger, mais franchement, on a pu faire une bonne discussion sur cet épisode. Alors que voilà, c'est pas forcément un épisode très très touffu, vu que contrairement aux autres fois où il y a eu l'orientation, on n'a pas eu un invité pour nous parler du ressenti général de l'orientation, vu qu'on avait eu Gabriel la dernière fois, on avait eu Jérémy il y a deux saisons. Alors c'est vrai que c'était pas forcément une période facile, vu que c'est un demi-épisode et que bah y a pas toujours beaucoup de matière à dire sur un demi-épisode. Après voilà, je pense qu'on s'en est bien tiré et je voudrais profiter de l'occasion d'avoir les derniers mots pour dire que on aura les trophées ADF après la finale. Donc les trophées ADF, ce sont les récompenses attribuées par le serveur Discord ADF aux candidats les plus marquants de la saison. Et donc, je voudrais en profiter pour faire un peu de publicité. Si jamais vous n'êtes pas déjà sur le serveur Discord ADF, n'hésitez pas à le faire. Les liens sont sur les réseaux sociaux d'Autour du Feu. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a une bonne communauté pour discuter de Koh-Lanta. Et ça vous permettra de voter au trophée ADF. Donc, pensez-y. C'est un bon plan.
Et puis, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la finale de ce Koh-Lanta. Donc ce sera les poteaux et le conseil final qui promet d'être très salé. C'était Damien, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.